Voilà, bien bonjour à chacun, chacune. Heureux d'être ici avec vous. Heureux d'avoir pu chanter ce merveilleux chant avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne nous aider à comprendre ce que tu veux déposer dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit de révélation qui vient sur nos cœurs maintenant. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Seigneur, merci. Merci parce que par ta lumière, nous voyons la lumière. Et Seigneur, nous nous attendons à toi maintenant. Touche nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs. Merci, Seigneur. Amen. Je vais vous poser quelques questions. On va voir si vous allez... Le premier qui trouve la solution, vous me la donnez, d'accord? Ça marche? Si je vous dis la nuit du 14 au 15 avril 1912... Yes, waouh, pas mal. Souvent, c'est seulement la troisième question que les gens disent, ils essayent timidement de dire, est-ce que ça serait pas par hasard? Donc, le Titanic, 4000 mètres de profondeur, c'était la deuxième énigme, hein. 1500 victimes, le troisième indice. On l'appelait l'insubmersible. C'était le plus grand paquebot jamais construit à son époque. Et la presse avait lancé cette rumeur. Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot. Ni les chantiers Harland et Wolff, je cherchais comme ça sur Internet, qu'il avait construit, ni la compagnie d'exploitation White Star Line n'ont démenti les médias de l'époque. Pourquoi? Simplement parce que ces équipements étaient à la pointe de la technologie en 1912. Tout semblait prévu pour la pire des situations imaginables. Et cette nuit-là, à plusieurs reprises, des navires ont signalé au commandant de bord la présence de nombreux icebergs dans un épais brouillard. Mais l'équipage n'en a pas tenu compte et le paquebot a poussé à pleine vitesse dans le but de décrocher le ruban bleu récompensant la traversée de l'Atlantique la plus rapide. Un peu plus tard, un autre navire, le Californian, pris dans les glaces, envoie un message à tous les navires alentour. Et sur le Titanic, il est intercepté par l'opérateur radio qui répond « Dégagez, taisez-vous, vous brouillez notre trafic radio. » Et puis survient l'accident, le naufrage. Malgré les appels au secours lancés, c'est, je crois, même la première fois que le signal de détresse du code Morse SOS a été lancé. 1500 personnes sur les 2200 présentes sur le navire périssent dans une mer glacée. Même si on avait rempli tous les canaux de sauvetage au nombre insuffisant, plus de la moitié des passagers seraient mortes noyées, de toute manière. Et puis, il y a quelque temps de cela, à Londres, parce que le Titanic revient régulièrement aux actualités, voilà, c'est un peu particulier quand même. Mais il y a quelque temps de cela, à Londres, il y a une clé d'apparence très banale. Vous savez, un petit peu comme ces vieilles clés, là, vous n'en avez pas parlé, un peu comme ces vieilles clés métalliques, en fer forgé. Une clé tout à fait banale, un peu rouillée, a été mise aux enchères. Et j'ai lu à ce moment-là que elle aurait pu sauver le Titanic. Étonnant, non? En effet, elle ouvrait un coffre qui renfermait les jumelles du nid de pie, le poste d'observation qui est situé à l'avant du bateau et où se tient l'homme de vigie. Il n'y avait pas de sonar, il n'y a pas de radar à ce moment-là, et ces jumelles étaient indispensables aux veilleurs pour détecter les obstacles qui menaçaient le navire. Mais voilà, il s'est passé quelque chose de dramatique, c'est que le second officier, David Blair, avait dû quitter ses fonctions, pour quelle raison, j'en sais rien, il avait dû quitter le navire à la dernière minute, juste avant le départ, et il avait oublié de remettre la clé à son remplaçant. Coup du sort. Alors on peut tergiverser en disant que si vraiment ils avaient voulu avoir les jumelles, ils auraient pu forcer le coffre. Mais voilà, ils ne l'ont pas fait. Et cette petite clé m'a invité à réfléchir. Et je me suis pensé à ces choses qui, à ces vérités que nous pouvons tellement facilement oublier ou négliger dans nos vies. Et cela peut avoir des conséquences inimaginables pour notre vie présente, pour les autres, mais aussi pour notre éternité. Alors, des clés, il y en a partout, mais il n'y en a qu'une seule qui pouvait ouvrir ce coffre. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention tout à nouveau sur quelque chose que nous venons de chanter. Et nous pouvons le chanter, nous pouvons le dire, nous pouvons le croire. Et on oublie de vivre la puissance, celle du sang de Jésus. Et je vous invite à lire, en premier lieu, ou à écouter, un récit que l'on trouve dans le livre du prophète Zacharie. Prophète Zacharie, au chapitre 3. Rien à voir avec les bateaux, mais nous y trouvons la clé qui peut sauver des millions d'êtres humains et qui peut-être aussi peut changer ta vie. Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Le Seigneur me fait voir le grand prêtre Josué. Il est debout devant l'ange du Seigneur. Satan, l'accusateur, se tient à la droite de Josué pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur, « Que le Seigneur te réduise au silence, Satan. Oui, qu'il te fasse taire, lui qui a choisi Jérusalem. Est-ce que Josué n'est pas comme un morceau de bois arraché au feu ?» Josué, debout devant l'ange, est couvert d'abyssal. L'ange ordonne à ceux qui sont avec lui, « Enlevez-lui les abyssal. » Puis il dit à Josué, « Regarde !» Je t'ai enlevé ta faute. Je te mets des habits de fête. Il commande aussi de mettre un turban propre sur la tête de Josué. On lui met donc un turban et des habits propres en présence de l'ange. Ensuite, l'ange du Seigneur déclare à Josué, « Voici une promesse de l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu fais ce que je dis, si tu obéis à mes commandements, tu seras responsable de mon temple, de ma maison et de ses cours. Je te placerai parmi ceux qui sont ici à mon service. Écoute, Josué, toi qui es grand prêtre, et écoutez vous aussi les prêtres qui êtes avec lui. En effet, votre présence, à vous les prêtres, annonce ce qui va arriver. Je vais faire venir mon serviteur, celui qui s'appelle Germe. Devant Josué, je place une pierre, sur cette seule pierre, il y a 7 points brillants. Je vais écrire moi-même quelque chose dessus, et en un seul jour, je vais enlever les fautes de ce pays. Moi, le Seigneur de l'Éternel, je le déclare. » Josué, voilà un homme qui a toutes les raisons de penser qu'il est en sécurité. Un peu comme les gens qui ont payé leur billet pour faire la traversée sur le Titanic. Sécurité absolue. Il appartient au peuple de Dieu, au peuple que Dieu s'est choisi. Le peuple dépositaire des alliances, des promesses les plus extraordinaires. Qui plus est, Josué est un homme qui connaît la parole de Dieu, qui en a une connaissance toute particulière puisque sa vie est consacrée au service de Dieu. Josué lui-même et le grand prêtre, ce médiateur entre Dieu et son peuple. J'imagine aisément l'aura qui devait entourer sa personne, le respect qui lui était accordé par le peuple, qui venait d'être restauré dans ses terres après 70 ans d'exil. Tout cela, c'est l'accomplissement des prophéties, des paroles des prophètes, donné par Jérémie, par Ésaïe, les porte-paroles de Dieu. Il faut bien aussi comprendre que la personne du grand prêtre, le souverain sacrificateur, était le centre du sacerdoce tout entier, de l'adoration de Dieu par son peuple. Donc c'est vraiment la personne clé. Mais voilà, la situation n'est pas aussi belle que ce qu'elle pourrait paraître. Vous savez, on peut très bien se nourrir d'illusions parce que nous voyons, parce que nos sens peuvent percevoir, mais heureusement, l'esprit prophétique est là. Et Dieu va montrer à son prophète, Zacharie, ce qu'il en est réellement de la situation. Non pas d'un grand prêtre avec tout son apparat, non pas d'une religion qui semble commencer à être restaurée en Israël. Zacharie reçoit une révélation bien précise de la part de Dieu. Josué, de par sa fonction de grand prêtre, se tient devant Dieu. Jusque-là, tout est correct. Mais il n'est pas seul. Satan est aussi là. Il est de Satan qu'il se tenait à sa droite et qu'il l'accusait. Voici ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » C'est là le rôle de Satan. Accuser les serviteurs, les servants de Dieu, les enfants de Dieu, et cela sans relâche, jour et nuit. Sans se décourager, Satan vient non seulement vous accuser dans votre conscience, dans vos pensées, dans votre cœur, vous accabler de toutes sortes de culpabilités, mais la Bible nous montre ici, et dans l'histoire de Job aussi, que Satan s'évertue à dénigrer devant Dieu lui-même les hommes et les femmes les plus fidèles à Dieu. Si nous ne réagissons pas de la bonne manière, si quelque chose ne se passe pas lorsque nous sommes conscients de cette accusation portée contre nous dans le monde spirituel, alors il y a des conséquences que nous devons supporter, et cela est exprimé dans le psaume chapitre 109. Il est dit, une parole terrible, au verset 6, « Place-le sous l'autorité d'un méchant, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. » Ces mêmes paroles ont été appliquées à la personne du Judas Iscariote qui avait trahi le Seigneur Jésus. Quand quelqu'un reste sous l'accusation de Satan, vous me direz, mais c'est pas possible, un chrétien, c'est pas possible. Combien de chrétiens j'ai rencontrés dans les peu d'années de ministère qui sont derrière moi déjà? Les chrétiens qui vivent sous une culpabilité constante, sous l'accusation de l'adversaire. Cela peut prendre toutes sortes de formes différentes, mais il y a un poids, il y a un emprisonnement du cœur, de la pensée, de l'esprit. Il y a comme un enfermement. Il y a une domination qui s'exerce sur la personne. Et l'ennemi exerce un droit terrible, avec un seul objectif, la destruction de cette personne. La destruction de sa vie présente, la destruction de son appel, la destruction de l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, la destruction de toutes les bonnes choses que Dieu, non seulement a placées dans sa vie, mais veut voir développer au travers de sa vie. Et la destruction de la vie de cette personne dans l'éternité. Le voleur, Satan, nous dit Jésus, est venu pour, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et la personne se trouve alors en proie à un mal qui la détruit petit à petit, mais sûrement. Et elle se trouve dans la même situation qu'au psaume 109. Le mal semble alors être plus fort qu'elle. toutes sortes de dépendances s'installent alors dans sa vie et la rendent prisonnière, esclave. Elle se place sous l'autorité de l'adversaire. Tant que cette question n'est pas réglée de manière claire dans nos vies, eh bien, nous nous trouvons dans cette situation. On peut aller à l'église, on peut lire sa Bible, on peut prier, on peut chanter, on peut même faire de l'évangélisation, on peut faire plein de choses. Tant que cela n'est pas réglé, nous nous trouvons dans la même genre de situation que celle du grand prêtre Josué, pourtant au service de Dieu. Une autre des conséquences évoquées par le psaume 109, c'est l'inefficacité de la prière. Il dit que sa prière même passe pour un péché. La communication avec Dieu est brisée. Plus de connexion. Il semble que Dieu n'entend plus, ne répond plus, n'agit plus. Alors à quoi bon prier ? C'est ainsi que le découragement s'installe. Ça ne sert à rien. C'est ainsi que bon nombre de gens ne voient plus la prière comme une priorité ou un élément primordial de leur vie. Et leur vie de prière est anecdotique et encore. À ce stade, j'ai pu remarquer que des systèmes de survie que les gens mettent en place. Parce qu'on a des instincts de survie très forts dans le cœur humain. C'est très fort. Et on met des choses en place, comme ça, des systèmes, par peur de venir à la lumière, de reconnaître le vrai besoin. Et ça varie d'une personne à l'autre, mais j'ai noté les trois les plus courants. Le premier, c'est l'auto-justification. On trouve toutes sortes de bonnes raisons, de bonnes excuses pour sauver la mise. Nul n'est parfait. Hein? Et puis, voilà, la liste des excuses peut être longue, et puis, c'est juste étonnant de voir toutes les excuses qu'on peut se trouver. On a une imagination, mais débordante. On peut même trouver des excuses dans la Bible. Et puis, la deuxième technique, c'est l'accusation des autres. Ça, c'est efficace. Ça nous permet de nous sentir pour le moins aussi bon qu'eux, si ce n'est meilleur. Quand je vois les chrétiens que j'ai autour de moi, finalement, le Seigneur a quand même de la chance de m'avoir. Et puis, la troisième technique, ouais, si on peut parler de technique, mais quelque part, ça nous aide. Hein, c'est une bonne dépression. Donne raison à l'accusateur. J'arrive pas à m'en sortir. Voilà. Là, ça va pas. Voilà. Dans l'une ou l'autre de ces réponses face à l'accusation de Satan, le problème n'est pas résolu. Loin de là. Et nous nous retrouvons dans la même situation que Josué. Alors, quelle est la solution de Dieu ? Ce qui est terrible, c'est que dans ce genre de situation, c'est que les autres chrétiens n'y voient rien, très souvent. On arrive tellement bien à donner le change, tellement bien à cacher son jeu, à cacher ses failles, à cacher ses points faibles, comme on dit. La solution de Dieu, elle se trouve au verset 2. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur, que le Seigneur te fasse taire, Satan. Qu'il te fasse taire, oui, lui qui a choisi Jérusalem. L'ange du Seigneur est intervenu. Dans les actes des apôtres, cet ange est identifié à la personne même de Jésus. Et Jésus l'a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles l'aient en abondance. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Non pas pour que tu survives, non pas pour que tu t'accroches à un bout de radeau qui va couler tellement il est plein, mais que tu vives en abondance. La Bible nous dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et cette œuvre principale de Satan est l'accusation portée contre nous, ce poids véritable de culpabilité. Ce n'est pas une fausse culpabilité dont pourrait te délivrer la psychologie moderne. C'est une vraie culpabilité. Et ce matin, entends cette voix de Jésus qui s'élève au-dessus des accusations de l'adversaire. Satan, tais-toi ! C'en est fini maintenant, stop ! Que cela cesse dans ta vie, cette culpabilité qui te ronge. Quoi que tu aies fait, quoi qu'il ait pu se passer, Jésus est au milieu de nous ce matin. Il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas besoin de te convaincre qu'il est là. Tu n'as même pas besoin de le sentir. Tu n'as pas besoin de faire toutes sortes de choses pour t'en assurer. Il ne t'a jamais laissé tomber comme nous l'avons chanté. Il est là tout près de toi, tout près de moi. Je ne tiens pas devant toi comme celui qui accuse, le doigt pointé sur toi, ni même les bras croisés, mais il veut intervenir en ta faveur. Jésus le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il veut aussi être pour toi ce même Jésus, celui qu'il a été pour le grand prêtre Josué. Alors, mais concrètement, comment faire? Une chose importante est dite de Josué. Verset 3, Josué, debout devant l'ange, est couvert d'abyssal. Si Satan pouvait l'accuser ainsi, c'est parce qu'il avait des vêtements souillés. Cette tunique, cette parure, cette tiare aussi qui est sur laquelle, qu'il avait donc sur la tête, sur laquelle étaient gravées ses paroles, sainteté à l'Éternel. Cela, ses habits étaient sales, symbole de son péché. Pourquoi ? Est-ce que c'était le passage en Babylone ? Est-ce qu'ils ont ramené des trucs, des pensées, des modes de pensée, des influences ? D'où vient cette... Cela ne nous est pas précisé, mais cela le rendait impropre au service de Dieu. Disqualifié pour se présenter devant Dieu au nom du peuple et devant le peuple au nom de Dieu. Quand la Bible nous parle de notre victoire sur Satan, sur l'accusateur, elle nous dit des choses, les choses de manière très claire. Je reviens à Apocalypse chapitre 12. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur, de nos frères et sœurs, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Bien-aimés, il y a la puissance, l'efficacité dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus pour tous les hommes et pour toutes les femmes, de tous les temps, de toutes les générations, de tous les lieux. Grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Quel est ce témoignage dont il est question ici? C'est à la fois celui des Écritures qui nous déclare avec force « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Sa parole n'est point en nous. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce témoignage, c'est des Écritures, mais c'est aussi celui de notre expérience personnelle. Ce qui fait la valeur de ce sang, c'est aussi le résultat qu'il produit dans notre vie, lorsque nous l'appliquons à notre cœur. Mais cela est nécessaire. Il est nécessaire de l'appliquer. Il faut une appropriation personnelle. Il ne suffit pas de croire, de manière générale, que Jésus est mort un jour sur la croix pour mes péchés, que ça a été fait une fois pour toutes, c'est bon, il n'y a plus besoin de recommencer. Mais il faut que cela, nous approprions, que cela devienne une réalité dans notre vie. Que ça ne devienne pas simplement quelque chose auquel nous croyons, mais quelque chose qui devient réel dans nos vies. C'est par la foi que nous pouvons nous saisir de ces choses, que nous pouvons les vivre réellement. J'avais entendu cette fois, une fois quelqu'un me dire, voilà, le fait d'être à côté d'un savon, hein, vous posez un savon devant vous, ou même de travailler dans une usine de savon, ça sent très bon, de posséder une quantité infinie. On est allé dans le sud de la France, et moi on aime aller dans les marchés. Et puis là, il y a des endroits où, avant même à 20 mètres du stand, vous savez qu'ils vendent des savons là-bas. Et là, il y a une tonne de savon, quoi. C'est beau, des savons, tous les parfums différents. Et on craque à chaque fois. Donc vous pouvez remplir, parce que ce qui se passe, c'est que d'une année à l'autre, on n'a pas encore tout épuisé. Donc finalement, le stock, il augmente. Des savons à revendre. Vous pouvez avoir une pièce remplie de savon dans votre maison. Je peux même étudier la fabrication des savons, connaître tous les secrets. Pouvoir en faire moi-même. Mais tout cela ne suffit pas pour me laver. Je dois prendre un savon et me l'appliquer à ma vie personnelle. Et on peut ainsi connaître beaucoup de choses sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, même sur le sang de Jésus, tant qu'il n'y a pas une application personnelle à notre vie. Nous nous retrouvons dans le même état que Josué devant l'Éternel. Ce matin, où en es-tu? On a chanté ce chant, « Je suis fort ». Je suis fort, oui, plus que vainqueur. J'aime bien en anglais aussi, hein. Il y a la puissance, une puissance qui opère des miracles dans le sang de Jésus. Et un autre chant, un autre « C'est vieux cœur » qui dit encore, « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. » Ou encore, « Sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang. » Et la puissance dans le sang de Jésus pour ôter le péché de nos vies, de ta vie, quel qu'il soit, aussi crasse qu'il puisse être, aussi vieux, aussi attaché à ton souvenir, à ta mémoire qu'il puisse être, et la puissance dans le sang de Jésus, aussi longtemps que cela a pu sévir dans ta vie, rester accroché à ta vie, et la puissance dans le sang de Jésus pour l'en détacher, pour l'enlever, quel que soit ce péché, quelle que soit la dépendance, Jésus peut te délivrer par son sang, et la puissance dans le sang de Jésus. Et le résultat, c'est une paix extraordinaire, merveilleuse. Il y a un tel soulagement. Et tu entends cette voix de Jésus qui te dit, « Regarde, je t'ai enlevé ta faute et je te mets des habits de fête. » Il y a beaucoup de choses à découvrir encore sur le sang de Jésus. Mais ce dont nous avons besoin, ce dont tu as besoin ce matin, c'est surtout de l'appliquer à ton cœur. Qu'il y ait une une opération puissante qui s'opère dans ta vie, dans ton cœur. C'est reconnaître d'abord notre besoin devant Dieu. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Avant que je vienne ici, le Seigneur me montrer qu'il y a quelqu'un ici qui retient le pardon à une autre personne. Et là, la parole de Jésus est très claire. Tant que tu ne pardonneras pas, ton Père céleste ne pourra pas te pardonner. Nous devons veiller à l'état de notre cœur. Pardonne. Et tu seras pardonné. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu me laves, Seigneur. Que tu ôtes mon péché, le mal qui s'est attaché à ma vie, qui m'a sali. Délivre-moi de ce poids de culpabilité. Mais ça ne suffit pas. Jésus, je place ma confiance en toi. Sauve-moi. Délivre-moi. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang pour me pardonner et me libérer. Pas seulement le pardon, mais la délivrance. La délivrance du péché. Et aujourd'hui, ton péché est effacé, ta faute est enlevée. Et très souvent, pour ceux qui vivent cela, on s'y arrête. Moi, j'ai vécu dans ma vie, voilà, tellement content. Sauvé, fini, délivré de tout ce qui m'empoisonnait la vie et l'existence. Tout ce qui venait assaillir ma pensée, mon imagination. Pardonné, délivré. Mais Dieu veut que tu ailles plus loin. Il te dit, il te fait la même promesse qu'à Josué. Si tu fais ce que je te dis, si tu gardes ma parole, si tu obéis à ma parole, alors tu auras toujours accès à ma présence et tu me serviras. Ce que Dieu disait à Josué, c'est que Josué, non seulement allait se tenir devant l'autel des sacrifices, que Josué, non seulement allait se tenir devant l'autel des parfums, devant le chandelier, devant la table des pains de proposition, dans le tabernacle, dans le temple, hein, mais qu'il aurait accès à la présence même de Dieu, de ses saints anges, du Fils éternel, de l'Assemblée des saints. Il y a tout un monde de révélation du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu, des projets de Dieu, des réalités spirituelles que tu ne peux pas voir avec l'œil nu. Et tout cela est contenu dans la puissance, l'efficacité du sang de Jésus appliqué dans ta vie. La grâce de Dieu. Quand je vais prêcher, j'écris tout. Ça, je suis sûr de rien oublier. Après, il y a d'autres choses qui viennent en plus. Et puis, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai imprimé mon message, j'ai remarqué ça ce matin. J'avais fini, hein, c'est bon. Rassurez-vous, il ne manque rien. Il y avait une feuille blanche. Puis, pourquoi il y a cette feuille blanche? Pourtant, je suis très économe. Donc, je fais bien attention. Il y a une feuille blanche. Et puis, j'étais là. Ça me dit, tu vois, tout ça, c'est ce qui peut arriver encore. Il y a une feuille blanche devant toi. Il y a une feuille vraiment blanche. Il n'y a plus rien dessus. C'est immaculé. Et c'est là-dessus que Dieu veut écrire des choses nouvelles dans ta vie. Il y a des projets merveilleux dans ton cœur que Dieu y a déposés, mais qui ont été jusque-là tenus bloqués. Parce que tu as bien conscience que ta vie, ce n'est pas ça. Que ta marche avec Dieu, ce n'est pas ça. Un jour oui, un jour non. Un jour ça va, tu as l'impression que tu pourrais remuer ciel et terre. Que tu as toute la foi du monde pour renverser les montagnes, pour les déplacer. Et puis d'autres fois, c'est le fond du trou, tu es au fond de la vallée, Si je ne vais pas réussir à émerger, et puis ça repart, et puis c'est comme ça. Je me dis, c'est fini ça. C'est fini. C'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses demeurer dans sa présence. J'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole éternelle. Merci Seigneur Jésus parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là par ton Saint-Esprit. C'est toi qui confirmes ta parole dans nos cœurs avec puissance. C'est toi qui en témoignes par ton Saint-Esprit. C'est toi qui viens user de convictions plus profondes de nos cœurs. Et merci pour ce témoignage de ton esprit de vérité qui vient maintenant. Et tu connais la situation, le cœur de mes bien-aimés. Tu vois où ils en sont. Toi, tout ce qui se passe dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs rêves, dans leurs nuits. Tout ce qui se passe lorsqu'ils sont là, comme cela, assaillis par toutes sortes de pensées qui les abattent, qui les détruisent, qui les rongent, qui les découragent. Et je te prie, Seigneur Jésus, maintenant, selon ta parole, confirme ta parole, oui, Seigneur, et que ces voix, que ces paroles, que ces accusations de l'adversaire se taisent maintenant au nom de Jésus. Et je vous invite là où vous êtes, à dire au Seigneur, dans votre cœur, dans votre vie, Seigneur, oui, je veux appliquer ton sang sur ma vie. Je vous invite à lever votre main et à dire, Seigneur, j'applique ton sang maintenant sur ma vie. Je veux vivre cette réalité, cette puissance du sang de Jésus qui me donne une complète victoire sur l'accusateur. Au nom du Seigneur Jésus, viens, Seigneur, tu rejoins mes frères et sœurs dans leurs besoins maintenant. Je proclame sur leur vie la puissance et l'efficacité du sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Seigneur, maintenant je proclame la liberté, la délivrance de toute captivité. Au nom du Seigneur Jésus. Je proclame la délivrance de cet esprit de mensonge, de tout ce qui vient et qui a tenu captif la pensée ou le cœur, le sentiment, la vie de qui que ce soit ici dans cette salle. Au nom du Seigneur Jésus, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ces paroles, je les ai lues comme vous peut-être. Je crois que je n'avais jamais entendu prêcher dessus. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des difficultés dans ma propre vie. Je veux en témoigner ce matin parce que très souvent on imagine que les pasteurs, voilà, ça marche, hein, c'est une affaire qui roule. Mais je trouvais que j'allais bien. Tout allait bien, baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais répondu à l'appel de Dieu dans ma vie, je marchais, je servais le Seigneur avec tout mon cœur. Et cette parole m'a été révélée dans une situation qui est devenue vraiment difficile. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais là, tranquille, et tout d'un coup, j'ai été comme inondé d'un fleuve de boue. Je ne sais pas où détruire ça autrement, un fleuve d'immondices dans ma pensée. J'entendais toutes sortes de blasphèmes dans ma pensée, toutes sortes de pensées horribles. Et c'était le jour, c'était la nuit. Je n'osais en parler à personne. Comment il comprendrait? Comment un pasteur peut avoir ce genre de choses qui lui passent dans la tête? C'était juste horrible. Et ça a été en augmentant, c'est comme si ce fleuve d'immondices avait été en augmentant. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, c'est devenu un point tel que je n'arrivais même plus à me concentrer. Je ne pouvais plus écouter quelqu'un. Je ne pouvais plus même regarder la télévision. Je ne pouvais même plus lire. je lisais la Bible, j'avais des pensées de blasphème qui venaient occuper ma pensée, mon esprit comme ça. Je me dis, Seigneur, je ne comprends pas. J'essayais de prier. Il semblait que ça ne passait pas plus haut que le plafond, même je ne sais même pas si ça atteignait le plafond. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je t'aime. Et puis, ces pensées venaient constamment contredire ce que je disais dans la prière. Je lisais des versets qui me disaient que Dieu m'aime, parce que j'essayais d'alimenter ma foi, de dire non, je. Ces pensées venaient contredire en permanence ce que je lisais. Si j'essayais d'écouter une prédication, constamment, ça venait contredire. Horrible. Jour et nuit. Un point que je suis allé dans une pièce, je me suis enfermé, et j'ai dit, je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que Dieu m'ait délivré, jusqu'à ce que Dieu m'ait affranchi. J'ai crié à Dieu. Il n'y avait rien qui venait. Et c'est à ce moment-là que cette parole m'a été révélée. Et au moment où j'ai lu cette parole, j'ai lu à haute voix, où Dieu, l'ange de l'Éternel, dit, « Satan, que l'Éternel te réprime. Tais-toi !» À ce moment-là, fini. La puissance de la parole de Dieu. C'est devenu une réalité dans ma vie. Il est bon de s'en rappeler régulièrement, quand ça ne m'arrive plus, heureusement, mais de se rappeler la puissance du sang de Jésus qui nous lave, la puissance de la parole de Dieu. Si ce genre de choses t'arrivait, ne te décourage pas. La puissance du sang de Jésus est réelle. N'oublie pas cela. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, il vous garde dans sa main. Et je me réjouis simplement de ce qu'il va vous donner de vivre avec lui dans ces prochains jours. Merci.
Merci Samuel pour ce message. Je voulais juste rajouter, je ne fais pas long, hein, parce que pendant la louange, j'ai une image qui est venue à mon esprit. Et puis je voyais un homme qui était posé sur un socle et cet homme était vacillant en fait. Et ça rejoint la parole qui nous a été prêchée ce matin. C'est vrai que l'ange de l'Éternel te réprime. Si le diable essaye de nous faire vaciller, quand l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, dit à Satan que tu sois irréprimé, hein, que tu sois contenu, que tu sois contraint, que tu puisses plus parler, alors vient la délivrance. Et ça, c'est un mystère, parce que des fois, Dieu permet la tentation. Des fois, Dieu permet, malheureusement, hein, on ne sait pas pourquoi, des temps d'épreuve, parce que tentation et épreuve, c'est la même chose en grec. Et des fois, ce temps dure. Et tout à coup, la délivrance arrive. Et ce matin, je crois que la délivrance est là pour chacun d'entre nous. Ça appartient à Dieu, ce temps-là. Mais tout d'un coup, c'est l'heure. Je sentais vraiment que dans le temps de louange, c'est comme si le Seigneur me disait, mais voilà, c'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure où Dieu se lève et fait taire Satan sur nos vies. Amen.